France Inter.
Aujourd'hui, Groenland, l'île de la tentation, racontée par
Pia Bayeul, anthropologue, spécialiste des questions minières au Groenland et rattachée au Fonds Latour à Sciences Po.
France Inter, le nouveau désordre mondial, une journée pour comprendre.
Le président américain Donald Trump s'est donc mis en tête de s'emparer du Groenland. Ses aspirations reflètent une fascination de longue date des États-Unis pour cette île qui remonte à plus de 150 ans. L'emplacement stratégique et les ressources précieuses du Groenland l'ont constamment placé dans le viseur américain. Mais les dirigeants groenlandais cherchant à préserver leur indépendance ont toujours résisté à ses avances. Cette relation complexe a traversé diverses phases, des premières tentatives d'achat des États-Unis au 19e siècle, qui envisageaient déjà le Groenland et l'Islande comme extension possible des territoires américains, aux tentatives de transactions pendant la guerre froide et même au-delà. La valeur stratégique du Groenland a été mise en évidence durant la Seconde Guerre mondiale lorsque les États-Unis ont établi des bases militaires sur l'île sous le prétexte de contrer toute expansion européenne sur le continent américain. Après la guerre, malgré les attentes danoises d'un retrait, les forces américaines sont restées sur place, soulignant l'importance cruciale de l'île pour la sécurité des États-Unis. La guerre froide a vu une augmentation de l'intérêt stratégique du Groenland en tant que nécessité militaire. Cet intérêt des États-Unis s'est traduit par des propositions formelles, incluant une offre de 100 millions de dollars révélée plus tard par l'Associated Press. Ces offres ont été perçues comme des tentatives de domination plutôt que de partenariat, provoquant au passage la consternation du Danemark. En réponse à ces tentatives persistantes d'acquisition, les États-Unis et le Danemark ont conclu en 1951 un accord permettant la poursuite des opérations militaires américaines sous le cadre de l'OTAN. Aujourd'hui, alors que l'Arctique se réchauffe, ouvrant de nouvelles routes maritimes et exposant des ressources auparavant inaccessibles, le Groenland réaffirme son autonomie. En décembre dernier, le premier ministre groenlandais, Muti Egidé, écrivait sur Facebook « Nous ne sommes pas à vendre et nous ne le serons jamais ». Mais ajoutant « Nous devons rester ouverts à la coopération et au commerce international avec nos voisins ». Ce mardi, les élections législatives organisées au Groenland ont créé la surprise. Le Parti démocrate favorable à l'indépendance remportait 30% des votes. Élection également marquée par une poussée des nationalistes. Jamais des élections législatives au Groenland n'avaient connu un tel retentissement international. Face à la convoitise et aux pressions du président américain, l'île peut-elle sortir gagnante et tirer parti de la situation? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre.
Groenland des chasseurs a eu son temps, place à celui des ambitions minières.
Bonjour Pia Bayeul.
Bonjour.
On n'aura jamais autant parlé du Groenland que ces dernières semaines. L'écho international autour des élections législatives cette semaine, ça vous a étonné ou pas?
Oui, ça m'a étonné. Enfin, les résultats surtout m'ont beaucoup étonné.
Ouais.
Après, le fait de parler du Groenland par rapport à ses ressources minières, au vu de la politique européenne de transition énergétique, ça ne m'étonne pas.
Participation très importante, hein. 70% donc, des un peu plus de 50 000 Groenlandais donc, ont participé à cette élection. Une participation en forme de mobilisation, selon vous, dans le contexte des attaques trumpiennes?
Oui et non, dans le sens où il y a toujours une massive participation aux élections au Groenland, les gens se sentent concernés quand même. Là, ce que ça a modifié un petit peu les interventions de Trump, à mon avis, c'est de polariser le débat sur la question de l'indépendance, alors que jusqu'à présent, c'était bien plus les questions sociales qui occupaient la scène politique, la scène médiatique, système de santé, services publics, toutes ces questions-là qui sont vraiment très très importantes au Groenland.
Mais sans les déclarations récentes de Donald Trump, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats selon vous ou pas? Difficile de le dire, mais
difficile
quand même.
Difficile à dire.
Vous parliez de surprise quand même sur ces élections là mardi.
Oui, voilà. Après, je pense que c'est pas possible de refaire l'histoire, mais quand même, la coalition de IA et Shiumut, quand même, s'était faite assez impopulaire à cause d'une réforme du code de la pêche. Donc sans entrer dans les détails, ça avait quand même entraîner des mobilisations des pêcheurs et tout ça, et l'industrie de la pêche est quand même la première industrie au Groenland.
Oui.
Donc ils étaient impopulaires de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que de l'extérieur, la position forte qu'avait prise Egidé par rapport à Donald Trump,
donc le Premier ministre,
semblait le rendre très favorable à un renouvellement, en fait. Donc ouais. C'est pour ça que c'était assez étonnant.
Bon, Premier ministre écologiste, hein, si on peut le présenter comme ça. Et c'est donc le Parti démocrate qui est arrivé en tête des votes, favorable à l'indépendance, 30% des suffrages. Ils ont multiplié par 3 leur score depuis les dernières élections. Élections notamment marquées par une poussée des nationalistes qui réclament l'accession rapide à l'indépendance de l'île. Donc ces deux partis qui arrivent en tête souhaitent tous les deux l'indépendance. Qu'est-ce qui les distingue alors ?
C'est ça. En fait, ce qui est fou, c'est que je pense qu'on n'aurait pas pu faire aussi polarisé, aussi différent. Donc ça montre bien que les annonces de Trump ont polarisé la question de l'indépendance. Parce qu'on a les démocrates qui sont pour une indépendance sur le long terme, comme EA qui avait le pouvoir. C'est-à-dire une indépendance qui arriverait au terme de la construction des industries minières, touristiques, parce que maintenant elles sont assez petites, donc vraiment les renforcer, faire appui avec la pêche. Et de l'autre côté, on a Nalérac, qui est pour une indépendance immédiate sans forcément construire le budget de l'État.
C'est l'extrême droite, hein ?
Nalérac ? Non, on peut pas dire qu'il y a...
Les nationalistes, pardon.
Oui, ouais, nationalistes. Ouais. Oui, oui. Au Groenland, on peut pas vraiment dire qu'il y ait de droite. Les démocrates ont vraiment une politique sociale libérale, mais soft.
Nationaliste, oui.
Voilà. Donc les démocrates sociales libérales, avec quand même une politique de l'État et des services publics, restreinte mais existante quand même. Nalérac, de leur côté, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont pas vraiment de politique économique. Ils ont surtout un programme très nationaliste qui revendique l'identité, la culture groenlandaise. Et là, en fait, où il y a un peu leur spécificité, peut-être si on peut en trouver une, c'est qu'ils sont pour des municipalités, donc les municipalités sont les localités, les mairies et tout ça, fortes. Donc de leur déléguer beaucoup, beaucoup de pouvoir et d'avoir ce qu'ils appellent beaucoup d'échelons démocratiques, donc ça n'a pas forcément de sens. Mais voilà, et donc s'extraire se séparer du Danemark immédiatement, mais ils ne précisent pas vraiment par quoi remplacer. Ouais. Les 60% presque du budget qu'apporte le Danemark chaque
année,
quand même. C'est
ça, plus de 500 millions d'euros, on en parlera avec vous. Les principaux partis groenlandais, donc, veulent l'indépendance. C'est justement aussi un résultat qui envoie un message très clair à l'ex-puissance coloniale danoise ?
Oui, forcément. Forcément. Après, au Groenland, tous les partis sont pour l'indépendance. Donc, bon, il n'y a que le parti Atassut qui l'a eu, je crois, 3 ou 4%, pas plus, où c'est pas forcément toujours très clair, mais c'est vraiment un très très petit parti. Jamais ils ont mené des coalitions.
Les grands perdants, quand même, ce sont les écologistes, finalement, dans cette élection. Qu'est-ce que ça dit des enjeux environnementaux pour le Groenland ?
Je pense que ce que ça dit, c'est que les questions écologiques du point de vue minier ont perdu le pas. C'est ça qui avait vraiment déterminé les dernières élections en 2021.
Parce et qui avait protégé aussi l'île, d'ailleurs, non ?
Protégé dans
le fait d'avoir quand même une politique environnementale très forte par rapport aux miniers, ça a été aussi une façon de protéger l'île d'un point de vue environnemental, non ?
C'est sûr. Après, le fait qu'il n'y ait pas de mine au Groenland à l'heure actuelle est surtout dû à un problème d'investissement. Les questions environnementales, le fait d'avoir une législation forte de ce point de vue-là, certes, peut être vu comme un frein pour l'industrie. Mais je dirais que le frein principal, c'est quand même toujours le coût de la construction des mines au Groenland, qui est plus élevé qu'ailleurs à l'heure actuelle.
Aucun des partis n'étant en position d'obtenir la majorité sur les 31 sièges donc au Parlement groenlandais. Des tractations vont maintenant être nécessaires pour former une alliance. Ceux qui ont vu Borgen, par exemple, à la télévision, peuvent s'en inspirer pour comprendre un petit peu la complexité du système politique aussi au Groenland. Est-ce que cette île, le Groenland, est en capacité de voler aujourd'hui de ses propres ailes, selon vous, Pia Bayol ?
D'un point de vue économique, non. Non, non, parce que comme on l'a dit, 60% du budget vient quand même de l'extérieur, donc on voit pas vraiment comment l'État pourrait se financer, sachant que le pays traverse un processus de construction étatique. Donc il renforce ses services publics, il développe son industrie, on en est là au Groenland à l'heure actuelle. C'est un processus très lent, donc il y a besoin de capitaux étrangers et surtout toujours de la main tendue du Danemark à l'heure actuelle.
Et Donald Trump le sait bien, évidemment, puisqu'il martèle sa volonté de mettre la main, sans exclure d'ailleurs la force sur ce territoire jugé important pour la sécurité américaine. Mais évidemment, il y a des ressources dont on va parler aussi avec vous. Les Groenlandais, ils excluent massivement cette éventualité ou pas ? Quels sont l'état de l'opinion là-dessus ?
Oui, ils excluent massivement cette possibilité. En janvier, un sondage avait été mené... petit sondage de 500 personnes qui montrait que 85% des personnes interrogées ne voulaient pas d'une annexion ou d'un rapprochement avec les USA. Après, ce qui est un peu paradoxal, c'est que quand même les démocrates qui ont été élus en tête, eux annoncent bien dans leur programme de campagne qu'ils sont pour un rapprochement diplomatique avec les USA. C'est très clair, c'est écrit très clairement. Et Nalérac, celui qui est arrivé second, bon, ils n'ont pas fait d'annonce spécifique, mais je crois qu'ils sont pour se rapprocher de personne. Surtout, ils sont pour un État fort, tout seul, sous le joug de personne.
En tout cas, les Américains ont fait de nombreuses propositions d'achat ou d'échange de terres depuis assez longtemps maintenant, qui ont toutes été rejetées, donc soit par le Danemark, soit par les Groenlandais eux-mêmes, dont le consentement est quand même obligatoire. Il faut juste rappeler peut-être géographiquement que le Groenland est plus proche du continent nord-américain que de l'Europe. Est-ce que ça veut dire que les Groenlandais se sentent quand même un peu plus américains qu'européens ?
Alors, du point de vue, votre question, je suppose, c'est les Américains des USA. Alors là, non, pas du tout. Ils se sentent pas non plus spécialement plus proches des Européens, je pense, parce que l'histoire est une histoire coloniale qui est liée au Danemark quand même, faut pas oublier ça, et que là, le processus d'indépendance est post-colonial aussi. Donc ça, ça a marqué. Après, ils se sentent très proches des Américains dans le sens des populations inuites, des populations autochtones qu'il y a sur ce territoire-là. Et il y a un clair rapprochement, une claire alliance avec ces peuples-là.
On va se retrouver dans un instant, Pia Bayeul, avec l'industrie minière au centre donc des enjeux géopolitiques pour le Groenland. Et puis vous répondrez également aux messages qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer, car nous en avons besoin pour notre sécurité nationale.
En 2019 déjà, Donald Trump, lors de son premier mandat, avait proposé d'acheter le Groenland.
Il s'agit essentiellement d'une importante transaction immobilière. Beaucoup de choses pourraient être faites.
La source de sa convoitise, les réserves d'hydrocarbures, de métaux et de terres rares que renferment les sols du Groenland. Des réserves naturelles qui pourraient permettre aux États-Unis de réduire leur dépendance à la Chine, actuelle productrice de 80% des terres rares consommées.
Reportage de Public Sénat en février dernier, le nouveau désordre mondial. J'en ai spécial sur France Inter pour comprendre les bouleversements en cours et dans La Terre au Carré. On s'intéresse au Groenland avec vous, Pia Bayeul, spécialiste de l'anthropologie minière et de l'Arctique. Dans la feuille de route du nouveau gouvernement groenlandais, Pia Bayeul, la question de l'industrie minière, elle va avoir une place absolument centrale ?
Oui, forcément, dans le sens où... ça se joue à l'échelle mondiale à l'heure actuelle. Quand même, le Groenland a été beaucoup placé sous le feu des projecteurs, donc il faut qu'il y ait une politique claire du gouvernement sur ce sujet-là. Mais aussi parce que c'est une industrie qui monte au Groenland et qu'il faut qu'ils la développent pour développer leur économie.
Ouais. Donc, l'industrie minière, c'est une question qui fait l'objet d'un consensus dans la population ou pas ?
Il y a cette
idée d'utiliser justement les ressources, de pouvoir les exploiter ?
Oui, totalement, et ça depuis longtemps, parce que les mines ont quand même une petite histoire au Groenland, donc c'est pas nouveau. Ouais. Et à l'heure actuelle, le fait d'utiliser la rente minière pour accéder à l'indépendance, ça fait sens.
Ouais, pour accéder à l'indépendance, et puis peut-être aussi pour résoudre des problèmes de pauvreté, de chômage, c'est-à-dire qu'on mise beaucoup aussi là-dessus pour ces raisons-là ?
Totalement, pour le développement social, en fait. L'idée, c'est d'avoir des mines qui ne soient pas de trop grande ampleur, donc de 100 travailleurs, en gros, à côté des localités, pour donner des emplois, directs et indirects, du dynamisme, des perspectives, et en même temps, pour ne pas avoir une empreinte trop grande et pas aspirer la localité non plus dans la dynamique minière, pas avoir trop d'impacts environnementaux. Mais ils excluent pas non plus le fait d'avoir des grandes mines, des gros complexes, éloignés des localités, ceux-là où on amènerait les travailleurs en avion sur une période donnée... sur un modèle qu'on connaît assez bien, finalement. Hein. On n'en est pas encore là au Groenland, mais c'est quelque chose qui n'est pas exclu.
Ouais. Le Groenland, l'île la plus grande du monde, avec un potentiel minier, qui représente quoi à l'échelle du territoire ? Qu'est-ce qui suscite autant de convoitises ? Et est-ce qu'on a évalué tout ça réellement ou pas ?
Alors, l'évaluation, elle est en cours, parce que l'exploration du Groenland est finalement encore à ses débuts, on peut dire, l'exploration minière, parce qu'elle commence dans les années 70 de manière systématique, dans les années 90, pardon. Donc, on est quand même au début, elle a été assez sporadique, menée par des industriels, ceux qui étaient les plus téméraires et qui avaient les fonds.
Ouais, les premières mines, d'ailleurs, c'était quoi, là, sur place hein ?
Les premières mines, du coup, c'est autour de 1800, c'est du cuivre, du graphite, mais c'est une ou deux mines, voilà, du fer aussi... Et donc là, à l'heure actuelle, disons que ce qui est très porteur, très recherché, ce sont les terres rares. Dans le sud du Groenland, il y aurait Bon, a priori, il ne sera pas exploité, mais il y aurait le second gisement au monde. Donc forcément, ça avait attiré beaucoup d'attention, mais la population étant opposée, il ne sera certainement pas exploité. Mais des terres rares, il y en a ailleurs sur le territoire. Il y a aussi de l'uranium, et il y a aussi de la platine, du graphite, très utilisé dans les batteries. Ouais. Et puis, donc là, on est plutôt sur des métaux stratégiques actuels, mais il y a aussi tous les métaux de construction. Il y a du fer, de l'aluminium, du plomb, du nickel, il y a tout ça.
Il y a tout.
Il y a tout
au Groenland.
Il y a aussi des métaux précieux, il y a de l'or, il y a des rubis, il y a vraiment de tout au Groenland.
Vous dites deuxième gisement de métaux rares. Vous dites la population va s'y opposer, donc ce ne sera pas exploité. Quand on pense aux enjeux qu'il y a, on parlait de la Chine dans l'extrait tout à l'heure du reportage là, qu'on entendait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les États-Unis convoitent autant le Groenland, parce que ça pourrait leur permettre aussi une autonomie vis-à-vis de la Chine sur les métaux rares.
Totalement. Là, en l'occurrence, c'était les terres rares, plus précisément, et c'est pour ça que ce gisement était si convoité toujours par les USA. Après, la population groenlandaise s'est massivement opposée à son exploitation, parce que dans ce gisement-là, les terres rares sont couplées à de l'uranium, ce qui est très courant géologiquement. Oui. Et qui dit uranium dit radioactivité, et il y a une peur très très forte de la radioactivité au Groenland et des impacts environnementaux de cette radioactivité. C'est pour ça que la population s'est opposée à l'exploitation du gisement. Qu'une loi...
C'est ça, il y a eu un gros précédent en fait, hein, une grosse mobilisation autour de l'uranium. Hein. Ça a été une des grosses luttes du Groenland quand même.
Pendant les 10 dernières années en fait, et c'est cette mobilisation qui a mis à la tête Mout Egede en 2021. Et ce qui est rigolo, pied de nez de l'histoire, c'est qu'à l'époque, le ministre des matières premières qui a mené en fait le projet mini en 2021, qui poussait pour qu'il ait lieu, c'était Jens Frederik Nielsen, celui qui a été élu en majorité à cette élection-là. En fait. Donc il y a un revirement, et ça qui montre que la question minière n'a pas été centrale sur cette élection, mais qu'elle a été sur la dernière, par contre.
Donc Premier ministre écologiste, hein, et aujourd'hui donc démocrate qui remporte l'élection. Des mines en activité, est-ce qu'il y en a aujourd'hui au Groenland ou pas? Si on brosse un panorama...
Oui, ça va être rapide hein, comme panorama. Il y a une petite mine d'or dans le sud, la mine de Nelunak, qui est en activité intermittente depuis 2004, qui peine entre des manques d'investissement, donc banqueroute, rachat des licences et des filons qui s'épuisent, donc il faut en trouver des nouveaux, tout ça. Oui. Donc intermittence, il y a une mine en construction qui devrait entrer en activité d'ici un an ou deux à Rerer-Tarsouak, qui est juste à côté de nous, qu'on va dire.
La capitale.
Sur la côte ouest, et qui, elle, serait une mine d'anorthosite, qui est un petit matériau qui sert dans la laine de verre, notamment, mais dans d'autres matériaux de construction. Mmh. Et puis, il y a une mine de rubis qui a fermé il n'y a pas longtemps, sur la côte ouest, à Palutok, qui a fermé, je crois, en 2019. Il y aurait toujours des filons à exploiter, mais là, il n'y a plus les sous. Ouais. Donc, il y a ces trois sites-là, vraiment, qui composent le paysage.
Donc, c'est rien, en fait, par rapport au potentiel du Groenland.
Ils sont
assis sur un trésor de guerre et pour l'instant, il n'y a pas d'exploitation en fait.
C'est ça. En fait, ça coûte toujours trop cher de construire une mine au Groenland, d'une part. Là, pour des questions de terrain, en fait, il faut tout amener, donc amener toutes les infrastructures. Ça, c'est au financement des industriels, clairement. Et puis, il faut entretenir ces installations dans un climat qui est très compliqué, tout en prenant en compte la volatilité des prix, etc. Donc là, c'est un peu la question du terrain. Mais ce qui rend aussi ça peut-être plus difficile au Groenland qu'ailleurs, c'est la législation groenlandaise qui impose aux compagnies minières d'avoir une restitution sociale assez forte et une attention pour l'environnement. Donc la restitution sociale, ça va être prodiguer des emplois locaux, des formations, s'assurer vraiment que les localités sont prises en compte dans la mine et que ce n'est pas un processus extérieur.
Donc ça veut dire avoir des gens qualifiés.
C'est
quand
ça,
même.
Les qualifier, en fait, les former et leur promettre un emploi pour l'avenir. Donc ça demande quand même un investissement de la compagnie minière. Et puis la question environnementale sont des études d'impact et des techniques d'extraction qui vont être en fait parfois plus difficiles à mettre en place que d'autres techniques plus coûteuses environnementalement, qui font que tout ça réunit, les investisseurs, ils vont plutôt dans des pays historiquement miniers.
Et le Danemark a jamais investi en fait là-dedans?
Si, il y a eu des tentatives, notamment le fameux gisement de terres rares. Le Danemark a investi des années 60 aux années 80 dedans. Mmh. Alors, pas pour les terres rares à l'heure actuelle, parce qu'il n'y avait pas de marché, mais pour l'uranium, qu'il voulait exploiter pour sa propre industrie. Voilà, donc là, ils ont financé toutes les explorations, mais il y a à nouveau une levée de bouclier à cette époque-là. La population ne voulait pas voir cet uranium exploité pour la question de la radioactivité. Et donc, c'est suite à la mobilisation qu'il y avait eu une interdiction d'exploiter l'uranium au Groenland, qui avait ensuite été levée en 2013.
Donc, très peu de mines, vous le disiez, aujourd'hui au Groenland, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Et par contre, plus de bureaux d'exploitation, précisément ? Est-ce qu'on a sur place quand même beaucoup d'initiatives pour aller se renseigner, faire de la science, entre guillemets?
Ah, des explorations, vous voulez dire? Oui, oui, il y a énormément d'explorations au Groenland à l'heure actuelle. Il y a environ 90 licences d'exploration industrielle. Mais bon, ce chiffre, il est assez grand parce qu'il couvre en fait toutes les côtes groenlandaises, hein, presque. Mais quand on dit exploration, c'est 3-4 géologues qui vont l'été mener des champs d'exploration, en fait, qui fouillent, qui prennent des échantillons et qui s'en vont. Pour avoir vraiment un impact de ces explorations, pour les voir dans le paysage, il faut que le projet il soit très avancé, donc là, qu'il y ait des vrais carottages, ouais. Et c'est plus rare. C'est une dizaine de projets miniers qui en sont à ce stade. Donc, voilà.
Pierre Bayel, au niveau du gaz et du pétrole, il y aurait une extraction possible là aussi?
Légalement non, parce qu'en 2021, l'une des positions fortes du gouvernement anciennement des guides, ça avait été d'interdire pour le moment
l'exploitation. Il y a un potentiel d'énergie fossile, hein, mais effectivement, il y a une opposition sur le fait d'exploiter cela.
C'est ça, à l'époque, ce qu'il avait souligné, c'est que c'était pas rentable, et c'était vrai, parce qu'il y avait eu beaucoup d'exploration, mais aucune exploitation. Donc à ce stade, c'est vrai que le principe de réalité, c'était il se passe rien, autant interdire pour se concentrer sur les minerais.
Imaginons des compagnies minières, ça veut dire aussi au Groenland qu'il faut tout construire. Des routes, des logements, des bureaux, des canalisations, il faut de l'électricité, peut-être des barrages. Donc on imagine le gigantisme des chantiers potentiels là aussi.
C'est ça. Et c'est ça qui rend ces chantiers aussi chers pour les compagnies, mais aussi effrayants aussi pour les personnes qui habitent à côté. C'est que d'un coup, on a juste une montagne, et puis on a cette montagne transformée en site industriel, réellement, qui sort de terre. Donc ça, c'est vraiment l'empreinte physique, mais il y a aussi une empreinte carbone, à prendre en compte, qui est énorme. Et je me souviens, en 2012, il y avait un grand projet d'exploitation de fer à côté de Nuuk, qui avait un peu défrayé la chronique, parce que l'université du Groenland avait comptabilisé qu'avec ce seul projet en activité, il y aurait une augmentation de 70% des émissions de gaz à effet de serre du Groenland. Parce qu'il y a tellement peu d'industrie que le moindre site fait s'élever ce chiffre de manière drastique. Mmh. Donc il y a aussi cet élément-là à prendre en compte.
Pierre Bayel, si je vous écoute bien, finalement les Groenlandais ils sont un peu partagés quand même entre un désir très fort de pouvoir avoir accès à leurs ressources et en même temps des préoccupations environnementales réelles quand même.
Totalement. Totalement, et pour eux c'est pas du tout contradictoire, ça va ensemble. Parce qu'il y a une légitimité historique à exploiter leur territoire, à utiliser cette manne-là pour accéder à l'indépendance. Et aussi parce qu'ils ne voient pas ça en soi comme contradictoire d'exploiter l'environnement d'une manière qui soit durable, mais dans une vraie durabilité, c'est-à-dire ne pas du tout épuiser la ressource et ne pas épuiser les humains non plus dans leur travail. Mmh. C'est plutôt une belle perspective sur l'environnement, je trouve. Donc c'est pour ça qu'ils sont pour cette stratégie minière, mais qu'ils essaient d'avoir des garde-fous légaux qui soient très forts.
On a quand même du mal à imaginer une durabilité totale avec une exploration de toutes ces ressources telles que vous venez de nous les décrire, en tout cas. On se retrouve dans un instant. Pierre Bayel, on parlera aussi du visage du Groenland et de l'Arctique à l'heure du réchauffement climatique. Et puis vous répondrez aux messages que vous pouvez bien sûr nous envoyer encore sur franceinter.fr et sur nos réseaux.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
C'est notre terre. Elle n'est pas à vendre. Pour devenir indépendant du Danemark, on ne va pas se vendre à un autre pays. C'est pas ça l'indépendance. Si on veut être indépendant, on doit y parvenir seul.
Le Groenland, convoité par la Chine, par l'Amérique de Donald Trump, un territoire au centre de nouvelles batailles commerciales. L'île ne cesse de se développer grâce aux nouvelles opportunités liées au changement climatique, mais les Groenlandais veulent garder le contrôle sur cette nouvelle ruée vers le nord.
Reportage de France 2, c'était en 2019. Pierre Bayel, vous qui êtes anthropologue spécialiste de ces questions donc du Groenland et de l'Arctique. C'est vrai qu'on parle beaucoup des États-Unis donc, qui lorgnent sur le Groenland, mais quid des velléités chinoises ou même russes d'ailleurs? Est-ce qu'elles sont réelles ou pas?
C'est vrai parce que du point de vue groenlandais, elles ne sont pas réelles. Les Groenlandais jusque-là se sentaient assez absents de l'échiquier politique, enfin géopolitique. La présence américaine sur le territoire est d'assez longue date par les militaires. Donc c'est pour ça que c'est un cas un peu différent. Après, pour la Russie et pour la Chine, il y a quand même une absence. Il n'y a aucun investissement russe dans le minier ou les infrastructures. La Chine a essayé. Donc ils ont eu quelques projets miniers. Ils ont eu 3, il me semble, jusqu'en 2020. Et ils ont essayé d'accéder un peu à la politique groenlandaise par un massif investissement dans un projet d'aéroport que le gouvernement avait accepté au début, mais le Danemark est arrivé à la rescousse, à bloquer l'investissement et à proposer de presque doubler la mise. C'était énorme. Mmh. Et donc c'est finalement le Danemark qui a investi. Donc il y a cette volonté danoise quand même de freiner la Chine au Groenland. Mais on comprend cet appétit quand même du point de vue de la géopolitique et de où est positionné le Groenland. Parce que entre la Russie et les États-Unis, c'est quand même un avant-poste militaire extrêmement Absolument. Important, ouais. mais aussi commercial avec la route, le passage du Nord-Ouest.
Et alors justement, le réchauffement climatique, le Groenland qui fond et à une grande vitesse, puisque le réchauffement climatique est deux fois plus rapide que dans le reste du monde, comme l'Arctique d'ailleurs, on dit même qu'il pourrait atteindre un point de non-retour d'ici la fin de ce siècle. La population, elle est déjà confrontée directement aux effets du changement climatique. Vous qui avez vécu là-bas plusieurs mois, vous l'avez vu de vos yeux ou pas ?
Oui, clairement. Moi, j'avais pas des yeux assez aguerris pour le voir, mais on me l'a clairement montré. Le premier effet, c'est la fonte. C'est la fonte des glaciers. Clairement, il y a beaucoup de moraines qui se creusent. Donc, c'est-à-dire des glaciers qui fondent tout simplement et qui laissent un paysage assez désertique, grisâtre, fait de gravier sur lesquels il faut des années, des décennies pour que ça repousse derrière. Et simplement, le ruissellement des eaux dans les montagnes, des glaciers qui fondent. Ça, c'est un peu le premier élément extrêmement perceptible, extrêmement visuel, le recul de la banquise.
Ouais.
Il y a aussi la question des bancs de poissons, évidemment. Le réchauffement des eaux, en fait, modifie les bancs de poissons qui passent. Et la pêche étant extrêmement développée au Groenland, ça pose beaucoup de problèmes, notamment pour la prévision, tout ça.
Ouais.
Et puis là, un autre problème aussi, c'est la fonte du pergélisol. Donc ce sol gelé, soit à l'année, soit en demi-saison, qui se réchauffe et qui libère du méthane, des pollutions, mais qui est aussi très très instable et qui, par exemple, empêche toute construction sur ce sol.
Au cours de la saison 2024, la calotte du Groenland a perdu 80 milliards de tonnes de glace, selon les données des services géologiques nationaux du Danemark et du Groenland. C'est d'ailleurs loin d'être un record, mais ça fait désormais partie des 28 années consécutives où la région perd de la glace. 28 ans déjà, hein. Donc on est vraiment sur un système qui ne cesse de se poursuivre, avec des conséquences qu'on peut évaluer d'ailleurs sur la poursuite, parce qu'on parle de choses assez catastrophiques, dramatiques en tout cas pour l'île.
Totalement. Après, moi je ne suis pas climatologue, donc je ne pourrais pas entrer dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est que les Groenlandais adaptent leur mode de vie. Et le premier impact, c'est sur la chasse et la pêche. Et la pêche en premier lieu, à cause justement de ces mammifères qui modifient leurs habitudes et qui du coup impactent cette économie. Après, il y a un autre élément aussi, c'est sur les croisières aussi, parce que la modification marine... crée des perturbations, en fait, avec ces énormes croisières. Enfin, j'avais cité des noms, mais je ne vais pas les citer.
Ah, ouais.
Avec ces milliers de passagers, il y a quand même beaucoup de risques de débordement, de tsunamis dans la région, qui ne sont pas du tout pris en charge par les pourvoyeurs de croisières, alors qu'ils le devraient. Une catastrophe pourrait arriver. En fait.
Le tourisme s'est développé beaucoup aussi ces dernières années au Groenland.
Oui, il est
à l'instar de l'Islande, par exemple, où on fait face vraiment à un surtourisme. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose du Groenland ?
Pas encore, mais l'Islande est le modèle politique.
À ne pas suivre.
Eh ben, à suivre pour le coup, mais à suivre toujours. On est au Groenland dans une idée de durabilité.
Ouais.
Mais c'est la deuxième industrie après l'industrie minière qui est priorisée pour être développée justement.
Le changement climatique, en amplifiant les risques naturels, va rendre l'extraction des ressources beaucoup plus incertain aussi. Est-ce que ça, finalement, ce serait pas une manière, malheureusement, de protéger aussi le Groenland des convoitises, parce que ce sera incertain, coûteux, potentiellement mortel?
C'est ça. En fait, le premier frein, c'est la déstabilisation des sols, qui rend la construction d'une mine très très difficile, très instable. Donc des questions de sécurité deviennent très importantes.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on a tendance à croire de manière automatique réchauffement climatique veut dire fonte des glaces, veut dire mine plus facile, mais pas du tout, c'est l'inverse en fait. Ce qui est facilité, ce sont les explorations, parce que c'est plus simple de voir en dessous.
C'est ça.
Mais par contre, pour la construction de la mine, c'est plus difficile et c'est plus coûteux.
On va passer aux questions pour vous, Pia Bayeul. Une question de Gilles. Si le Groenland devenait indépendant, aurait-il sa propre monnaie ?
Ce serait envisageable, vu qu'ils auraient la main sur ce secteur-là. À l'heure actuelle, c'est une compétence qui est toujours à Copenhague.
Mmh.
Donc le Groenland ne peut pas décider tout seul. Quand il pourra, pourquoi pas ? Mais j'ai du mal à penser qu'il aurait une monnaie forte.
Ouais.
Donc je ne vois pas pourquoi il le ferait.
Jean-Michel nous dit, est-ce que le Groenland indépendant pourrait bénéficier de la protection de l'OTAN ? si tel était le cas.
Oui, à nouveau, ce serait par vote parlementaire, mais il n'y aurait pas de souci, je pense, à adhérer.
Ouais. Jeanne demande si le processus d'indépendance pourrait se faire rapidement ou pas.
Oui, à l'heure actuelle, de façon légale, les Groenlandais peuvent, par référendum, accéder au statut d'indépendance. Donc,
Ils sont autonomes, c'est un territoire autonome.
Oui, ils ont leur propre gouvernement, toute une série de compétences exécutives, législatives. Donc là, par référendum, ils pourraient accéder à cette indépendance. Donc ça peut se faire demain. Après, de manière raisonnée, ils ne vont pas le faire parce que ça ne servirait à rien, ils tomberaient sous d'autres tutelles, vu qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se financer.
Ils sont sortis de l'Union européenne, d'ailleurs, on peut le rappeler.
Oui.
Hein, ça a été assez rapide, d'ailleurs.
Oui, dans les années 70-80, oui. Bah, pour des questions de quotas de pêche, en fait. Est-ce que les quotas européens leur imposaient une restriction de cette industrie qui est majeure pour eux, qui est essentielle, et donc ils ne pouvaient pas se le permettre. C'est pour ça qu'ils ont un statut un peu particulier, mais ils bénéficient de beaucoup d'aides européennes, et il y a beaucoup de partenariats avec l'Europe. Ils ne sont pas extérieurs à l'Europe non plus.
Vincent demande, est-ce qu'il n'est pas naïf de penser à une indépendance du Groenland sans le financement du Danemark? On le disait, 500 millions chaque année. Que peuvent vraiment espérer les Groenlandais à part que leurs terres soient vendues pour des projets miniers américains?
Je pense qu'il ne faut pas caricaturer. Et déjà, peut-être que je n'ai pas rappelé, mais ce ne sont pas les USA les premiers investisseurs au Groenland sur le minier. C'est d'abord le Royaume-Uni, ensuite c'est le Canada, la République tchèque et l'Australie.
Ah oui, donc il y a d'autres acteurs très importants.
Ah oui, oui.
Il va falloir composer avec eux aussi.
Exactement. Et des gros acteurs miniers, en fait, qui font bien plus peur parce qu'historiquement, ils sont très très forts sur l'industrie minière. Donc pour le moment, les USA investissent, oui, mais très peu et jamais dans des projets qui se sont concrétisés en mine.
Philippe demande, est-ce qu'il est possible d'exploiter une mine dans une zone glacée avec 30 ou 200 mètres de glace, ou est-ce que précisément ça fait partie des limites
imposées? Eh bien c'est possible, imposées. Pour le coup c'est possible, mais les Groenlandais, parce que ça s'est posé déjà, et les Groenlandais s'y sont opposés. Ouais. Donc c'est possible, mais ça n'arrivera pas, je pense.
Louis demande, où en est-on de l'interdiction, puisqu'on en parlait il y a un instant, ou au moins la limitation des croisières dans les mers du Groenland, l'impact environnemental étant potentiellement désastreux. Ça a été évoqué aussi?
Totalement. Là, les Groenlandais, les parlementaires, pardon, avant les élections, étaient en train d'étudier une réforme du tourisme pour établir une vraie stratégie touristique sur le long terme, pour éviter le problème du surtourisme. Et pour le moment, c'est pas le problème environnemental qu'ils pointent du doigt, c'est plutôt le problème social, parce qu'on se retrouve à des villes de 300 personnes qui sont envahies par 10 000 touristes à la journée, en fait. Donc, c'est ça le vrai problème à l'heure actuelle pour eux. Donc...
Marie demande, enfin, vous avez assez peu parlé du Danemark. Comment se positionne ce pays dans la situation actuelle face aux velléités trumpiennes?
Mette Frederiksen, la première ministre, a clairement affirmé que le Groenland décidé pour lui était souverain sur cette question-là et qu'elle n'allait pas interférer, mais que par contre, le Danemark était un clair soutien. Et elle avait quand même fait une petite tournée européenne pour s'assurer du soutien, je sais, de la France et de je ne sais plus quel autre État européen, dans le soutien quand même à l'indépendance du Groenland et à son rattachement à l'Europe aussi, parce qu'il y a un intérêt européen quand
bien
même, parce que le Groenland ne soit pas américain.
Pour terminer, la population groenlandaise, elle ressent comment en fait ces déclarations de Donald Trump à répétition là?
Au début, ils se sentaient très méprisés, quand même perçus comme un sous-peuple, c'était vraiment leur expression, et en même temps, ils se moquaient un petit peu de lui. Là, depuis qu'il a réitéré, depuis cette semaine, ils commencent à avoir un petit peu peur quand même, parce qu'on parle d'une question armée, militaire, donc ils prennent ça au sérieux. Prennent ça au sérieux, là, maintenant.
Merci beaucoup, Pia Bayeul, d'être venue nous parler de cette île que nous connaissons si peu, le Groenland, pourtant la plus grande du monde. Vous qui êtes anthropologue, merci beaucoup d'être venue au micro de la Terre au Carré, et merci à Jean-Philippe Véret qui a préparé aujourd'hui ce dossier.